line up complete, we immediately set about putting our plan into effect to swindle.
Anarchy in the UK, c'est les Sex Pistols toujours qui nous accompagnent avec Denise Gillon, direct dans nos studios, pour évoquer un dernier documentaire sorti sur nos écrans, que l'on peut voir d'ailleurs depuis le mois d'avril. J'avais toujours eu envie de voir ce film. Denise m'a averti de multiples fois que son film était montré. Jamais je n'ai réussi. Mais ouf, cette fois-ci, nous avons réussi. Alors, dernier film, Femmes du nos futurs. L'histoire, une page de vie de trois jeunes femmes, aujourd'hui âgées de 30 ans, Sandra, Charlotte et Patou, et qui, à travers pourtant leur choix de vie de nos futurs, ont à un moment donné dans leur existence, pour diverses raisons, choisi d'avoir des enfants pour deux d'entre elles. Et elles mènent toutes les trois, y compris Sandra qui n'en a pas, une réflexion sur la maternité. Grâce à vous, Denise, qui voulait les entraîner, vous vouliez les entraîner justement sur ne pas enterrer leur vie par rapport à ce qu'elles avaient vécu. En fait, elles ont une vision, toutes les trois, assez différentes de leur rôle de mère, ne serait-ce que par rapport aux références qu'elles ont chacune d'entre elles par rapport à cela. Comment, par exemple, je ne sais pas, Sandra dit « je n'ai pas d'enfant », mais si j'en avais un, en tout cas jamais, je serais une femme au foyer. Comment elle explique ça? Comment elle argumente cela?
Bon, Sandra est tellement passionnée par son travail et ses multiples activités qu'a priori elle dit non, un enfant, non, je ne veux pas d'enfant parce que ça impliquerait un choix et qu'elle n'a strictement pas envie d'abandonner ni la musique, ni le graphisme, ni quoi que ce soit. Femme au foyer, je pense parce qu'elle en a un modèle, elle n'a pas du tout envie de le devenir parce qu'elle en a un modèle qui était malsain, hein, sa mère alcoolique. Et puis d'autre part, de nouveau, parce qu'on ne peut pas faire de la cuisine et de la peinture en même temps. Elle a choisi la peinture.
Et elle a cette idée, c'est une énorme responsabilité, non, il me semble, dit-elle à un moment donné. En tout cas, il faudra bien que j'y réfléchisse le jour où je ferai ce choix.
C'est vrai qu'elle dit qu'elle n'y a pas réfléchi en profondeur jusqu'à maintenant et qu'elle commence à le faire parce qu'elle a 32 ans et qu'il lui reste, elle dit, 4-5 ans pour prendre une décision. Donc elle commence une réflexion là-dessus. En même temps, je crois que sa vision du monde reste extrêmement critique. Et c'est important pour Sandra de pouvoir d'abord se sentir en harmonie avec l'environnement avant de mettre un enfant au monde.
Elle parle toujours du monde qui est si mauvais qu'on ne peut pas y faire venir un enfant, ou elle a, oui, compris, changé d'avis là-dessus parce que vous disiez que c'était sa grande idée de base par rapport à ce nos futurs.
Non, elle n'a pas tellement changé là-dessus. Je pense que ses envies personnelles ont été modifiées et qu'elle est peut-être plus souple, qu'elle serait prête maintenant à avoir un enfant en leur créant une micro-société très protégée. Mais son regard sur le monde n'a pas changé. Elle reste extrêmement critique. Elle est devenue par ailleurs militante. Donc, excusez-moi, petite distraction.
Les portes grincent. La lune entre dans notre studio, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des tas de femmes ou d'hommes, je crois, qui disent non, moi, je ne veux pas mettre un enfant dans ce monde. Finalement, ce n'est pas non plus été une idée qui était propre seulement au punk. Il y a des tas de gens qui pensent qu'il ne faut pas rajouter des enfants dans ce monde qui est tellement noir. Donc, elle, c'est pas on ne sent pas que c'est une chose encore qui est restée très forte, même si, bon, peut-être parce qu'elle est devenue active, vous dites, contre ce système.
Oui, oui. Elle, contrairement à ce qu'elle était en étant punk, hein, complètement nihiliste, maintenant elle est plutôt militante. Mais fondamentalement, je pense qu'elle, ouais, son regard sur le monde n'a pas changé. Donc j'ai pas l'impression qu'elle va faire un bébé l'année prochaine.
Charlotte, elle, fait une réflexion très importante sur le rôle de mère, le sien qu'elle veut, en tout cas pas comme celui de sa mère. Et entre autres, en parlant beaucoup de tendresse et de lien de tendresse avec son enfant.
Oui, alors effectivement, Charlotte est celle qui a le plus de facilité à se projeter dans l'avenir avec son gosse. Elle a fait le choix, par contre, d'être femme au foyer. Elle veut profiter au maximum de la présence de son enfant, donc elle lui consacre vraiment tout son temps. Et effectivement, elle a un regard critique sur sa propre mère, et notamment sur ses manques. Entrer trop dans les détails, mais le manque de tendresse, le manque de fou rire, le manque de complicité. Donc c'est vrai que sa projection sur son propre enfant est de pallier à ses manques. Elle a envie d'une relation très symbiotique, comme ça, en tout cas très physique et pleine de rire.
Quant à Patou, effectivement, on la sent très émue lorsqu'elle parle de sa maternité, de son rôle auprès de son petit garçon Loïc. Effectivement, elle n'a pas dû voir beaucoup, puisque vous nous l'avez expliqué, elle était souvent en prison et n'a pas pu voir son enfant. Elle dit à la fois « il est tout pour moi », on sent que c'est un choix, une évidence absolue, et puis en même temps, quand on lui dit ça, vous lui dites « mais alors ça te motive ?» On sent tout à coup, il y a les bémols qui s'installent, mais les bémols très, très émotifs.
Bon, elle dit quelque chose de très fort dans le film. Elle dit à un moment donné, oui, Loïc est tout pour moi, mais il me désespère. Puis elle se tait. Puis un petit moment après, elle dit, oui, il me désespère parce qu'il me demande trop. Et là, je crois qu'on en revient au problème éternel de Patou, qui est la culpabilité et le manque de confiance en elle. Hein, qui déjà à l'époque l'a poussée dans la drogue, etc. Et maintenant, elle est confrontée au même problème par rapport à son fils, c'est qu'elle a l'impression d'être nulle et de pas savoir répondre à ses exigences, de ne pas être assez bien, de ne pas être... Elle a tout un idéal de mère en tête et elle ne peut pas lui donner ce qu'elle désire lui donner, bon, déjà parce qu'elle est incarcérée, elle l'était au moment du tournage, et puis en plus parce qu'elle manque de confiance en elle. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette dualité chez Patou, où elle l'adore, elle lui donne tout, et en plus elle est tellement généreuse. Donc c'est vrai qu'à mes yeux, elle lui donne énormément. Puis en même temps, elle est toujours désespérée, parce qu'elle a l'impression que tout ça, ça ne vaut pas grand-chose, et qu'elle pourrait faire encore plus.
Finalement, trois réflexions sur le rôle de mère, qui pourrait être celle de n'importe quelle jeune femme d'aujourd'hui à 30 ans, sans avoir forcément le passé de punkette comme Sandra, Charlotte et Patou.
Tout à fait, oui. Je pense que ce qui changera peut-être dans leur rôle de mère, c'est au moment de l'adolescence. Je pense qu'elles feront beaucoup plus facilement front aux problèmes posés par l'adolescence, et notamment s'ils commencent à picoler ou à se doper, parce qu'elles auront là un exemple incarné à leur donner. Et je pense qu'elles elles auront plus de moyens peut-être pour les aider à s'en sortir.
Il y a une chose autre qui m'a beaucoup frappée dans votre film de Nice, c'est le temps que vous laissez au silence. Ça, c'est vous, c'est votre griffe, c'est votre façon de faire le portrait de ces trois jeunes femmes. C'est qu'elles ont le temps de parler et le montage n'a pas coupé ces moments d'hésitation, ces moments de forte émotion. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'être voyeur. On sent qu'elles ont simplement besoin d'y penser. C'est important pour vous de retracer ces vrais moments de réflexion ?
Oui, c'est fondamental parce que je trouve qu'une personne se dévoile beaucoup plus dans le comment elle associe une idée à une autre que sur ce qu'elle dit finalement. Et j'adore ces temps de réflexion, de silence qui amènent à une autre idée, parfois totalement différente, qui s'éloigne très très fort de la question posée, mais qui permet finalement de beaucoup mieux sentir la personne, de beaucoup mieux se dévoiler. Donc c'est vrai que pour moi c'est important de pas couper. C'est une des libertés aussi qu'offre ce choix de travailler en indépendante, hein, pour reprendre la question que vous m'aviez posée avant. Parce qu'étant donné que je travaille avec un producteur aussi indépendant, nous sommes libres au moment du montage de choisir de faire durer des silences 3 minutes si ça nous chante. C'est pas le cas. Hein, mais...
Pas de contrainte du vidéoclip et voilà. Les gens sont habitués à zapper. Alors, il ne faut surtout pas les faire qu'ils s'ennuient par la réflexion des gens.
Oui.
Mais ça, en tout cas, je pense que les spectateurs, en tout cas moi, je l'ai ressenti comme une très grande force parce que vous évoquiez tout à l'heure le moment où Charlotte, par exemple, parle de son mari qui est mort d'une overdose. Et là, il y a un très long moment de silence. On ne sait même pas à quoi elle pense. On a l'impression qu'elle voit redéfiler des moments d'existence avec lui. C'est tout. Ce n'est même pas un partage avec nous. Mais on est là, on a envie d'être là malgré tout, malgré le silence. Et ça, je trouve, c'est d'une force impressionnante.
Vous voyez, ce qu'il y a de merveilleux dans ce silence-là, c'est la conclusion. Parce qu'elle parle de l'overdose et du décès de son mari comme d'un drame et d'un grand moment de douleur. Elle se tait. on sait effectivement pas du tout à quoi elle pense. Elle conclut, elle enchaîne dans le même plan, elle conclut en disant « Mais c'est ça qui va me donner la force de maintenant, moi, m'occuper de toxicomanes et d'aider d'autres gens à s'en sortir. » Donc c'est merveilleux parce que d'elle-même, dans ce plan séquence-là, elle fait le cheminement du film que vous citiez tout à l'heure. Elle parle d'un passé noir sans avenir, d'un drame, pour aller vers la lumière et pour aller vers quelque chose qu'elle a envie de faire, c'est aider les autres.
Alors, peut-être pour conclure, Denise, nous allons encore juste parler d'une forme dont je voulais parler avant, j'ai oublié, mais je pense qu'au niveau de la forme, c'est aussi important. C'est que dans votre film, qui est censé être du cinéma, donc ça doit bouger, vous avez utilisé beaucoup de photos. Parce qu'évidemment, on ne va pas forcément faire des recompositions, ce n'est pas de la fiction. Donc, vous avez utilisé beaucoup de documents photographiques, des extraits d'archives de Lausanne Bouge, par exemple. C'était difficile de retrouver toutes ces choses-là, où elles avaient, par exemple, elles, une caisse de photos, des disques à elles, parce qu'elles faisaient presque toute partie de groupes de musique. On les entend, on les voit jouer. Est-ce que c'était sous la main facilement tous ces documents ?
Non, on a passé des mois avec le producteur du film à faire des recherches. Alors, il y avait un certain nombre de matériaux qui étaient effectivement chez les anciens punks, donc c'était on ne peut plus simple. Ils ont effectivement sorti leurs albums photos, leurs cartons de fringues, etc. Donc ça n'a posé aucun problème par rapport au groupe régional. Par contre, ce qui a posé d'immenses problèmes, c'est les concerts punk. C'était pas une époque où les petites caméras vidéo existaient déjà. Donc il y avait absolument aucune archive filmée de ces petits concerts un peu pirates. Hein, parce que le propre de la musique punk, c'était de monter un groupe en une semaine, monter sur scène, faire un concert et on disparaît. Donc il y avait très peu de traces. Bon, une autre particularité du mouvement punk, c'était de faire très vite aussi des 45 tours, mais qui étaient distribués à 20, 50 ou 100 exemplaires et qu'on ne trouve plus sur le marché. Donc il fallait aller les rechercher chez des privés. Donc bon, bah là, il fallait pouvoir retrouver les gens qui avaient gardé ces disques, qui étaient d'accord de les prêter. Et par rapport à Lausanne Bouge, il y avait évidemment les archives de la télévision. Mais là, c'était une surprise catastrophique dans la mesure où toutes ces bandes ont été archivées en vidéo. Et elles datent d'il y a donc 15 ans maintenant. Et sur la plupart des bandes, il ne restait rien que le son. L'image en vidéo se garde mal. Hein. Il faudrait s'en occuper, dérouler les bandes chaque année, etc. Un minimum d'entretien. Et les seules 3 minutes que j'ai retrouvées dans les archives de la télé sont celles que j'ai mises dans le film. On voit une manifestation de rue, une image du centre autonome mobile. Donc avec ce matériel, c'est sûr que ça ne suffisait pas de faire un film. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il n'y a pas de matériel audiovisuel, allons chez les photographes. Et j'ai retrouvé, heureusement, chez tous les photographes, mais qui à l'époque avaient 15-16 ans, qui sont actuellement des photographes en place, des archives de leur début, qu'ils avaient faites au centre autonome, au cabaret Orwell, dans les rues de Lausanne, avec leurs amis punk. C'est pour ça que le film contient autant d'archives
photos. Et faire du cinéma avec des photos, c'est difficile. Enfin, c'est un défi différent.
C'est sûr que c'est un défi totalement différent parce que comment faire vivre les photos ? En plus, c'était plutôt compliqué dans le cadre de ce film-là parce que le propre du mouvement punk, c'est l'énergie. Hein, c'est la vitalité, leur musique, speed, etc. Donc la photo en plan fixe, c'est plutôt très ennuyant. Donc là, j'ai utilisé un stratagème où j'ai fait des images vidéo de Lausanne, très très bougées, que j'ai incrustées derrière les photos, de telle façon à ce que la fixité en fait, de la photo, la non-mobilité de la photo ne se ressente pas trop.
Alors, des images magnifiques au service surtout de 3 portraits magnifiques. Un film à découvrir. Alors, malheureusement, Denise, pour l'instant, une occasion dans le futur. On espère pouvoir vous en annoncer d'autres. Donc, une, c'était hélas hier. On n'a pas pu vous l'annoncer sur notre chaîne aujourd'hui. C'était donc dans le cadre de Genève Fête son cinéma, manifestation organisée par Fonction Cinéma, tout ce qui s'est fait en matière de cinéma à Genève dans l'année. Et puis, une vision télévisée sur Suisse 4 au mois de janvier, le 2 janvier. Mais tard, 23h10, c'est l'horaire fixé habituellement pour les documentaires ou
Non, en fait, les documentaires peuvent être diffusés dans différentes cases, hein, Temps présent, La vie en face, Suisse 4. Mais là, en fait, il y a une option prise par la directrice des programmes de faire une grille des fêtes sur Suisse 4 avec des documentaires de réalisateurs suisses. Une grille culturelle, malheureusement, à 23h10.
Et puis, le Festival du film de Soleure en janvier.
C'est ça, oui.
Alors bon, ça, je ne sais pas si les romans se déplacent à cela, il faudrait peut-être les encourager. Ou...
Ça vaut la peine.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi, oui, voir, bien manger, bien boire. C'est très sympa, cela.
Alors, vivement, je vous encourage, si vous avez l'idée et l'envie d'aller à Soleure, branchez-vous le 2 janvier si vous êtes là sur votre téléviseur sur Suisse 4, 23h10 et découvrez Femmes du Nos Futurs. Trois très beaux portraits. Merci beaucoup à Denise d'avoir persévéré à m'envoyer les annonces de visionnement de son film pour avoir pu en parler pendant un si long moment. Aussi, c'est important pour nous de s'installer dans les discussions dans Remue Ménage.
Merci à vous.
Stop! mehr nicht. Ich mach dich nicht zum Attentäter, zum Verräter. Ich jage dir den Schweiß von der glatten Stirn bis tief ins
C'était Nina Hagen dans sa phase vraiment ultra-punk, cheveux rouges, rouge à lèvres noir, outrancier, cheveux noirâtres et yeux noirâtres. Et puis une autre révoltée contre la société, mais c'était quelques années avant, c'est Janis Joplin.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care.
I gotta work for my man.
La semaine prochaine, dans Remue Ménage, nous parlerons femmes et sida en compagnie de Marie-Jo Glardon et Brigitte Souder, qui toutes les deux travaillent sur des programmes liés au sida. Marie-Jo Glardon spécifiquement sur femmes et sida et Brigitte Souder dans le groupe Sida Genève avec un programme lié aux femmes aussi. Alors, si vous avez des questions à nous poser, vous savez que vous pouvez toujours intervenir en direct dans nos émissions en appelant le 4 50 40 51 41, je répète 04 50 40 51 41, 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Et puis c'est ce même numéro que vous pouvez utiliser pour, et il n'est peut-être pas trop tard pour se poser la question, c'est peut-être même au contraire le tout juste moment, de faire à Radio Zone et Ondes Femmes, évidemment par la même occasion, un petit cadeau de Noël en nous achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur qui est un soutien à Radio Zone et à une radio qui, elle aussi, cherche à donner la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas habituellement, à se faire le témoin de la société dans laquelle nous nous trouvons et surtout jeter un autre regard sur cette société. Eh bien, une façon de la soutenir en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 120 francs français, c'est très simple. Vous appelez le même numéro que tout à l'heure, le 04 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Vous y laissez votre nom, votre prénom, votre adresse et nous vous envoyons la dite carte et en échange, vous nous envoyez votre soutien. C'est bientôt Noël, alors n'hésitez pas. Les Shakespeare Sisters, pour finir aujourd'hui ce remue-ménage. Et la lune, vous l'avez entendu tout à l'heure, est rentrée dans notre studio et elle va être hyper pleine dans un tout petit moment avec plein de nouvelles à vous transmettre.
You hate with chest.